Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0. La radio
sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est l'émission quotidienne d'info locale de Syllab, radio rennaise à écouter sur le 88.4 FM ou en DAB+. Du lundi au jeudi à 18h, d'octobre à juin, l'équipe de la rédaction de la radio sauvage décrypte l'actu de chaque jour, 6 heures avant le lendemain. Cet été, on vous propose de réécouter les reportages de nos journalistes de la saison radiophonique passée. Prêt et prête à reculer vos montres, retour au mois de mars.
Une autre information pour les étudiants et étudiantes, enfin pas que, le plus vieux festival étudiant de France et plus grand rassemblement de Solex d'Europe a annoncé vendredi sa programmation. Il s'agit bien évidemment du Rock and Solex. Parmi les artistes allant se présenter, il y a un groupe un peu particulier. En janvier, le festival a organisé un tremplin au Diapason, lors duquel le public était amené à voter pour son groupe de musique et de danse préféré. À la clé, la chance de pouvoir performer lors du Rock and Solex. Cyriane est allée sonder le public.
Ça se bouscule dans le hall du Diapason ce soir. Devant les petites urnes faites de bois dans carton, le public est au rendez-vous pour choisir son groupe de danse et de musique préféré.
Moi j'ai préféré le groupe Ouigo.
Odium.
Odium aussi.
En danse j'ai voté pour La Crêpe et en musique j'ai voté pour No Sex Last Night.
Nouveauté depuis l'année dernière, la danse est aussi au rendez-vous. Timothée et Gwen, danseuses de gavotte à l'association socioculturelle de Beaulieu, reviennent sur leur passage et la soirée.
C'était bien, franchement, le fait d'alterner une salle musique, une salle danse, une salle musique et tout, même avec les activités à côté.
Super, bah, déjà d'y participer, c'était trop cool de danser et tout. Et puis l'ambiance de fou avec plein de gens, on s'y attendait pas à ce moment-là. Ça donne envie de revenir.
Arsène et Agathe, à la fois organisatrices et publics, témoignent d'une soirée réussie.
C'était une très bonne soirée organisée et franchement, on est content des groupes qui ont été choisis, plein de styles différents. Il y en a un qui s'est démarqué pour nous et franchement, on a kiffé.
Juste les petites activités, c'était cool. Voilà, il y a tous les ans, il y a ça un peu et c'est vraiment sympa quoi. C'est un peu une avant-première du festival, c'est sympa.
Une diversité de styles faisant la force de ce tremplin et que Simone Chanoine, 20 ans, étudiante à l'INSA et membre du bureau du festival, détaille.
Cette année, le premier groupe à se représenter, c'était Muffin Culture. C'était un groupe plutôt de reggae. Le deuxième groupe, c'était Ouigo, plus électro, rock électro, je dirais. Il y avait surtout un violon qui accompagnait ça, donc c'était très cool et assez original. Et le troisième groupe, c'est Odiode, qui ont mis le feu au Diapason. C'est un peu rock, je dirais. Et le dernier groupe, qui est plus électro, c'est No Sex Last Night, pour un univers bien à eux, et c'est très sympa aussi. En fait, le tremplin, c'est un événement où nous, on n'a pas trop de pression parce qu'on est aidé avec Reine de la Nuit. C'est à l'équilibre, on gagne pas forcément d'argent, mais on n'en dépense pas non plus. C'est cool pour pouvoir un peu tester, ça marche vraiment bien tous les ans, donc c'est vraiment cool comme soirée.
Bon, allez, fin du suspense. Les gagnants et gagnantes de la soirée sont... Odiode, tout de suite, un extrait.
Côté danse, c'est la Scrab et la compagnie numéro 2 qui ont séduit le public.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0 heures.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Deux vaches nantaises et une truie port blanc de l'Ouest. Voilà les ambassadrices de l'écomusée de la Bintinée lors du salon de l'agriculture à Paris, qui s'est fini le week-end dernier. Quelques jours avant le grand départ pour Paris mi-février, Fabrice Jean, le responsable du parc agro-pastoral, a invité Eva à rencontrer les bêtes.
Le Salon international de l'agriculture, c'est vraiment une vitrine au niveau mondial, on peut se le dire, en termes d'élevage notamment, et puis tout ce qui est produit en lien avec le monde agricole. C'est les syndicats ou associations de races qui organisent des concours ou des présentations sur le site, et après, elles nous sollicitent ou pas. d'ailleurs, pour y participer. Alors bien sûr, il faut avoir des animaux qui soient dans le standard de la race, qui soient représentatifs de la race. D'avoir l'opportunité d'emmener des animaux, c'est vraiment une fierté. Puis pour, en termes de visibilité pour l'écomusée, c'est bien aussi d'être connu pour le travail qu'on fait sur la sélection animale notamment, puisque cette année on aura la chance d'emmener une vache nantaise, Henriette, et sa petite génisse, Virgouette, et également une truie en port blanc de l'Ouest, Ciliane. Alors les voici. Vous inquiétez pas, au contraire, il faut qu'elle voie du monde. Quand elle va être à Paris, elle va voir des milliers de personnes déambulées. Donc nous, déjà, on les prépare toutes les deux, la mère et la fille. Là. On les fait marcher tous les jours, que ce soit Henriette ou Virgouette, elles sont nées toutes les deux à l'écomusée. Nous, ça nous permet de montrer ce qu'on est capable de produire. Si Henriette, elle n'avait pas toutes les qualités requises pour, par rapport à ce qu'on attend d'une vache nantaise, bah, elle n'irait pas à Paris. Donc Ciliane, c'est une truie port blanc de l'Ouest. Elle est assez représentative de la race. C'est ce qu'on attend d'une truie sur les qualités maternelles notamment. Tous les animaux qu'on a ici sont destinés à produire donc des futurs reproducteurs. La petite différence, c'est qu'Henriette et Virgouette, elles seront en présentation. Et Ciliane, elle est en concours. Donc là, les animaux sont jugés par rapport aux standards et sont comparés les uns aux autres.
Henriette représente.
C'est Ciliane. C'est elle la truie.
Mais malheureusement, Ciliane a fini troisième, mais elle reste première dans notre cœur. Yes.
Bien sûr.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
La quatrième édition du Girls Rock Camp avait lieu du 10 au 15 février dernier au Jardin Moderne. Divisée en deux groupes de rock, of course, 8 filles entre 13 et 18 ans se sont challengées à apprendre un instrument inconnu en seulement 6 jours et puis à réaliser un concert. Et pour la com du concert, eh bien, ce sont aussi 5 adolescentes qui s'en sont chargées. Eva a pu aller à leur rencontre.
Faux départ. Aujourd'hui, vendredi 14 février, ce n'est pas les deux groupes de Girls Rock Camp que je vais voir, mais leur équipe de communication.
Les mots-clés, c'était boule à facettes, ciel étoilé et notes de musique, je crois aussi, et brouillard.
Emma me décrit l'affiche de The Sparkles, un des deux groupes de rock de Girls Rock Camp.
Là, hier, on a fait les affiches en fonction de leurs idées, les mots-clés qu'elles avaient... apporter
initiation photo, post Insta, et dans quelques minutes, les filles de la com vont s'attaquer à une autre activité inédite, les interviews des jeunes musiciennes.
Quand les filles elles étaient venues et tout, bah, ça m'avait mis mal à l'aise, parce que je les connaissais pas.
Je suis pas tant aussi sociable que ça, mais parler avec des gens et rencontrer des nouvelles personnes, ça m'intéresse. Et vu qu'on a assisté à une répétition hier, ce serait bien de savoir qu'est-ce qu'elles font.
Oh non, j'avais une question qui était venue, elle est partie.
Et pour aider Nouran et Vicnelli à réaliser les questions, une certaine journaliste de la fameuse radio CELAB est venue à leur rencontre.
Concrètement, comment ça se passe les répétitions? Parce
que... Pendant que l'équipe de la com prépare les questions, Alban du Jardin Moderne me raconte plus en détail ce qu'est le Girls Rock Camp.
Il y avait 84% des personnes qui venaient qui étaient des hommes. Et du coup, la question s'est posée de comment on faisait pour intégrer plus de filles, plus de femmes, etc. Les filles, c'est arrivé dans un endroit où il y a aussi des femmes et pas que des hommes partout. Et ça, c'est chouette.
Et c'est maintenant l'heure de rejoindre les musiciennes dans leur studio d'enregistrement.
Moi, je me garde un peu la surprise pour samedi soir.
Mais samedi 15 février étant passé... Et ayant eu droit lors des interviews à un petit extrait d'une chanson du groupe des Tangerines, je pense dire que ce n'est pas un spoil de vous laisser écouter la suite.
Merci Eva et bravo aux roqueuses en herbe, c'était super.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0 heures.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Pour ce 8 mars, l'équipe de 6 heures avant minuit a sillonné la métropole pour récolter les témoignages de femmes du bâtiment. De tous les âges et de toutes les filières, ces femmes nous ont livré un état des lieux de leur situation sujette, comme partout, à des évolutions spécifiques à leur milieu.
Dans le milieu du bâtiment, divers sont les métiers et divers sont les parcours.
Et quand on est une femme, il est parfois, voire très souvent, freiné par le patriarcat.
Véronique Iken, j'ai 55 ans. Je suis gérante d'entreprise depuis 25 ans. C'est une entreprise familiale que j'ai repris au départ en retraite de mon père. Donc je l'ai repris avec mon mari. Les réflexions qu'on pouvait faire à mon père, c'est « mais c'est pas possible, en fait, t'as pas de fils pour que ce soit ta fille qui reprenne ». Quand j'ai commencé sur les chantiers, donc encore un petit peu avant, il y avait très peu de femmes sur les échelles, les escabeaux, parce qu'à l'époque, on travaillait sur les escabeaux. Et j'ai vu des garçons qui faisaient demi-tour, disaient « oh bah, c'est une fille ». Au final qui est sur un escabeau. Ça surprenait.
Je suis Alain G, j'ai 27 ans. Je suis gérante d'une entreprise qui s'appelle Atelier de la Canopée. J'ai commencé l'ébénisterie à l'âge de 15 ans. Quand j'ai commencé du coup mon cursus en apprentissage, enfin c'est surtout mon père qui l'a fait d'ailleurs, il a cherché une entreprise pour mon apprentissage. Quand il précisait que c'était pour moi, donc sa fille, il y a eu quand même plusieurs réponses négatives où le patron faisait mention que c'était à cause de mon genre.
Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, je suis ébéniste chez les compagnons. J'ai fait une école d'art appliqué, donc c'était une école de design, et j'ai fait un mois en design d'objets, et il n'y avait pas de technique pratique, et du coup ça me frustrait beaucoup. J'ai souvent été dans la finition parce que je suis une fille, alors la fabrication c'est plus mis pour les garçons. Le vernis et la finition, il y a plein de filles, et la fabrication, c'est toujours plus de tu dois plus batailler pour aller en fabrication, quoi. Mais ça revient à chaque fois. À chaque fois, je vais finir en finition. Donc il y a quand même un truc ancré, je crois.
Après avoir eu des enfants, nombreuses sont les femmes passant du chantier au bureau, pour cause notamment des horaires plus flexibles. Des métiers bien différents, mais tout aussi élémentaires. Béatrice Fourmont, secrétaire générale de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment d'Ille-et-Vilaine, explique selon elle la grande féminisation de ces emplois.
Les grandes entreprises aujourd'hui favorisent des femmes chefs d'équipe, conducteurs de travaux, on en trouve beaucoup. Plus on a de salariés, peut-être plus le ratio va être important dans une grande entreprise, mais le pourcentage reste quand même assez faible encore aujourd'hui d'avoir des femmes sur le terrain. Comme vous voyez, on a plus de femmes dans les bureaux, mais c'est aussi nos compétences, parce qu'on a peut-être plus la fibre administrative, on a peut-être plus de rigueur aussi sur la gestion, et en fait nos chefs d'entreprise masculins, je pense, réussissent bien parce qu'ils sont bien épaulés aussi par leurs femmes dans l'entreprise. Quand ça fonctionne bien, c'est qu'il y a un bon binôme.
Marie-Pierre Marie, je suis couvreuse sur la commune de Béton et j'ai monté l'entreprise avec mon conjoint, donc je suis associée. Moi, je pense qu'on a fait pendant longtemps croire et comprendre aux femmes qu'elles n'avaient pas leur place sur les chantiers. Ça passe par la difficulté de trouver un maître d'apprentissage, de se faire une place, et ce qui explique pourquoi c'est moins marginal aujourd'hui, même si ça l'est encore. Je crois que les chiffres, c'est 13% de femmes dans le bâtiment, mais 3% sur les chantiers. Déjà avant, la femme dans le bâtiment, c'était l'épouse de l'artisan qui faisait la paperasse au bureau. Il y a eu des victoires comme justement de leur trouver un statut, qu'elles soient reconnues et qu'elles aient une fonction. C'est plus juste la femme de l'artisan. Elles sont assistantes administratives, elles sont gestionnaires d'entreprises artisanales.
En 2000, seulement 8,6% du secteur était féminin. 20 ans plus tard et 5% de féminisation en plus, les conditions de travail ont bien évolué. De quoi profiter à tout le monde.
Les sacs de plâtre, de map, avant avaient une certaine quantité. Et avant, ça devait être 35 et maintenant, on a baissé à 25 kilos. Il y a même de 15 aussi. Mais effectivement, le fait que les femmes commencent à être dans le bâtiment, il y a eu des choses de mise en place pour nous faciliter les choses, on va dire ça comme ça. Et en fait, les hommes en bénéficient beaucoup.
On a une problématique pour les femmes qui sont enceintes. La médecine du travail arrête automatiquement les femmes, automatiquement les femmes qui étaient enceintes dès le début. C'est un problème pour elles, d'abord, parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas en congé maternité, mais en arrêt maladie. Donc, il y a une perte de salaire. Donc, ça veut dire que, déjà, on n'est pas dans des salaires qui sont... on n'est pas des joueurs de foot, donc c'est plus compliqué. Surtout qu'on a aussi aujourd'hui des familles monoparentales. Donc, quand il n'y a qu'un salaire et que celui-ci, il est un petit peu réduit parce qu'on nous oblige à nous mettre en arrêt, c'était un problème. J'ai alerté la médecine du travail sur le fait qu'il fallait qu'on trouve une solution. On a trouvé une solution. On travaille depuis 10 ans sur les peintures aux algues, qui est une peinture biosourcée, qui n'est pas nocive. Cette peinture-là, elle a permis, après étude avec la médecine du travail, d'écrire une vraie fiche de poste et de dire que si je veux rester au travail, si j'en ai la capacité physique, je peux rester au travail, j'ai le choix de le faire. C'est essentiel, en fait.
Des progrès, donc, il y en a. De quoi donner aux futures et présentes générations d'artisanes l'espoir de plus d'égalité.
Je pense qu'on n'est jamais au bout de ce qu'on voudrait faire et de l'égalité, entre guillemets, parfaite qu'on voudrait avoir. Ça n'existe pas, mais... Mais je pense que déjà on est sur une bonne lancée. Je pense que c'est déjà mieux qu'avant, j'imagine. Enfin, j'étais pas là avant, mais.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Après des chaînes de télé, des radios, des terres agricoles, le groupe Bolloré s'est attaqué en 2023 au monde de l'édition en achetant le groupe Hachette. Et Hachette rassemble plus de 200 marques d'édition, dont Fayard. Le 9 novembre 2024, c'est sous cette marque que « Ce que je cherche », écrit par Jordan Bardella, est publié. Aglaé s'est donc demandé « La concentration de maisons d'édition détenues par de grosses fortunes, souvent d'extrême droite, peut-elle poser problème ?» Elle est donc allée à la rencontre de celles et ceux à la tête des librairies rennaises.
Dans les bureaux labyrinthiques de la librairie Le Fayard, Dominique Frege, le directeur, a son avis concernant Fayard.
C'est une maison d'édition qui fait partie du patrimoine français. Il y a le livre de Bardella par Fayard. Je veux dire, ça ne remet pas en cause la maison d'édition et les éditeurs qui sont à l'intérieur. Nous, nous sommes une librairie qui défend la liberté d'opinion et la liberté de se constituer une opinion. Une de nos règles est de ne pas mettre en avant les livres des extrêmes. Alors, vendre un livre qui est demandé par un client, c'est la loi. Et les librairies qui disent « on ne vend pas les livres de Fayard », s'ils refusent de vendre à un client ce livre, ils peuvent être traînés devant les tribunaux pour refus de vente. Voilà, nous n'avons pas cette position.
À ce sujet, Solveig, co-créatrice de la librairie La Nuit des Temps, n'est pas du même avis.
Après, il n'est pas interdit pour nous de discuter avec nos clients et de faire un peu de pédagogie et de leur dire un peu que bon, c'est un peu compliqué chez nous, ou de les orienter vers des structures qui les ont en stock.
Concernant la concentration des maisons d'édition détenues par de grosses fortunes,
ça peut être un problème pour les librairies parce que c'est des structures qui ont une force de frappe assez importante en termes d'imposition de leurs conditions commerciales, etc. Je pense que c'est d'autant plus un danger pour les structures d'édition indépendantes. Et en fait, au global, c'est un problème pour tout le monde parce que quand on voit effectivement que des grosses fortunes peuvent avoir des groupes éditoriaux, mais aussi des médias, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne possède pas un groupe éditorial parce qu'on a envie de faire de l'argent. Le livre, ça rapporte pas d'argent. Les types sont pas des philanthropes.
Aliénor Mauvigny, directrice de la librairie Comment Dire.
C'est surtout un problème pour l'édition. Les libraires ont quand même le choix de ce qu'ils travaillent ou pas. C'est compliqué, moi je trouve, pour la liberté d'action des éditeurs, pour les auteurs aussi, qui se retrouvent en porte-à-faux et qui peuvent être obligés de changer d'éditeur. C'est compliqué aussi intellectuellement, parce que c'est vrai que chez certains éditeurs dont on connaît la ligne, il peut quand même y avoir des livres importants, et que les commander et faire travailler ces maisons-là, c'est un peu problématique, mais il faut arriver à faire le tri. Donc je trouve que c'est compliqué de boycotter de manière totale.
Et surtout, soyez curieux et curieuses et lisez un tas de choses.
Et n'oubliez pas de privilégier les librairies indépendantes pour vos achats de livres plutôt qu'Internet.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Autour de 700 plats de bœuf bourguignon, voilà la quantité prévue demain par le CAP Boucher de CMA Chambre, du CMA Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne pour leur première action solidaire auprès des étudiants et étudiantes rennaises. Hier matin, dans une salle à 3,2 degrés, Eva a pu faire la connaissance des 25 élèves du CAP porteurs et porteuses de ce projet, ainsi que d'un de leurs formateurs.
Tout a commencé avec leur professeur, M. Conan.
L'idée que j'ai eue, c'est suite à un reportage que j'ai vu sur France 3, qui montrait la précarité étudiante.
Et pour la suite, c'est Cathy et Alexandre, deux élèves en pleine préparation de l'événement, qui racontent.
Il y a des morceaux en fait, qui existent dans le bœuf, qui ne sont pas forcément chers et qui peuvent être consommés et qui sont très très bons. Qui est assez long à préparer, en fait, il faut quand même pas mal de cuisson et les étudiants n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc c'est pour ça qu'on propose par exemple un bourguignon. Cette année, en fait, on a un projet à mettre en place sur l'année et on a, avec l'appui de notre professeur, mis en place en fait, une distribution gratuite de plats. On a fait appel à des abattoirs, donc on a fait appel à... Du coup, c'est Galets et Viande. On a aussi travaillé avec de la volaille. Donc, du coup, on a fait appel à Vol France pour avoir de la volaille. Donc, après, nous, là, aujourd'hui, on va commencer à préparer la viande. Demain, nous, on désosse. Demain, en fait, les traiteurs vont préparer la viande. Et jeudi, on la distribue sur les sites.
Et nous, on va être plus en charge de rechercher les différents ingrédients. Et puis d'organiser l'acheminement des plats, et puis la communication pour faire connaître le projet.
Après, on sait que
Bah, y a forcément de la population qui est végétarienne. Après, nous, on est bouchés, donc on va proposer de la viande là-dessus, pas de choix. Après, on sait qu'il y a du flexitarisme aussi, et les gens préfèrent acheter de la viande de meilleure qualité, mais moins souvent. Donc je pense que c'est plus là-dessus qu'on se tend content. 6 heures avant minuit.
Bonne nouvelle pour les assiettes de nos lycéens. Hier, le CEF de lycée Chateaubriand, 3600 repas par jour quand même, s'est vu remettre le label établissement bio engagé. Le restaurant collectif a pour spécificité de nourrir également les élèves de Joliot-Curie et du collège des Gailleuls. Il devient le 17e lycée breton à recevoir cette certification d'Interbio Bretagne, association promouvant l'agriculture biologique dans la région. Stéphanie Thébault, chargée de mission restauration collective et territoire de l'organisation, nous en dit plus sur ce label.
On a remis le label au lycée Chateaubriand de Rennes pour son engagement à l'introduction de produits bio dans son service de restauration. Et donc sur l'année 2023, on était à quasiment 24% d'introduction de produits bio dans son service de restauration. Aujourd'hui, on peut noter que 50% des approvisionnements viennent de Manger Bio 35. Donc ça veut dire que c'est des producteurs d'Ille-et-Vilaine qui ont approvisionné les produits. Le label, c'est 22% minimum de produits bio dans le service de restauration. Donc c'est 2 points au-dessus de la loi Egaline. Donc nous, on va vérifier sur l'année civile N-1. Introduire plus de produits bio, ben, ça suppose d'aller déjà chercher des fournisseurs. Et puis, si on prend par exemple les fruits et les légumes, il va falloir souvent acheter des produits bruts. Et donc, ça veut dire les éplucher, les découper. Là, c'est vraiment l'idée de mettre en valeur le travail des équipes de cuisine. C'est souvent des petites mains qui sont derrière les fourneaux, derrière les comptoirs. On ne se rend pas toujours compte de leur travail. En Bretagne, on a des très bonnes filières en bio sur la production de légumes, sur la production de produits laitiers. Et puis sur de la viande, ça va être peut-être un peu plus difficile sur les fruits. Et puis après sur tout ce qui est épicerie sèche, pâtes, riz, sucre, farine, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver des produits issus de la Bretagne.
Invité à prendre la parole pendant la remise officielle, un élève donne sa vision sur le sujet.
Ce label bio pourrait encourager cette structure à faire plus d'efforts pour, dans un avenir utopique, réussir à montrer que tous les lycées, tous les collèges de France pourraient avoir ce label. Peut-être que dans un avenir utopique encore, on pourrait avoir une alimentation qui pourrait être à 50-70% bio, même si ça demande plus de travail. Essayer de rémunérer plus, essayer de marcher avec les agriculteurs, avec ceux qui fabriquent la nourriture, avec ceux qui la transportent. Je pense qu'aujourd'hui, ce label encourage un développement qui va vers la symbiose entre l'homme et la nature. Bravo.
Et ce n'est pas fini, car la région a identifié 44 autres lycées éligibles à ce label. Bref, le bio a de l'avenir dans nos cantines bretonnes. Merci Cyriane pour ton reportage.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Vendredi dernier, Eva s'est aventurée sur le territoire des chimères. Enfin, voilà comment sont décrits les mélanges d'animaux créés lors des ateliers de création de l'association Sensible dans le cadre de l'exposition Sauvage en collaboration avec l'écomusée de la Bintinet. Les habitants et habitantes du quartier du Blône étaient invités ce mois-ci à participer à ces ateliers. Et bien sûr, Eva s'est fondue littéralement dans la masse.
Son cri, c'est entre le coq et la chauve-souris. Bon voilà, c'est
parfait.
Je t'avais oublié.
Oui, Corinne m'a bien oublié. Elle n'a plus osé faire le cri, mais m'a tout de même raconté l'histoire de sa chimère, Silver Moonfish, un nom tout droit sorti de son imaginaire.
Tu vois, cette anguille, elle a remonté la rivière. Elle a croisé un coq, le coucou de Rennes. Elle s'est liée d'amitié avec la chauve-souris. Comme il y a beaucoup d'insectes, il y a un petit scarabée qui vient par là. Ce qui était intéressant, je trouvais, c'était de le relier à notre quartier, en 2125.
Un bond de 100 ans en avant et un contexte particulier pour créer ces chimères. Plus de plastique, moins de gaz à effet de serre, plus de virus, une vision positive de l'avenir et aussi pour nos amis les rats.
Je vous présente le rat bougeon. Vu qu'il n'y a plus de maladies maintenant au Blône, les rats sont sortis des laboratoires et sont déterminés à ne plus se faire capturer par l'homme et exploiter.
Comme l'a imaginé Joy, une autre des 6 participantes à cet atelier-là, sa chimère est pleine de défense.
Une queue de d'esturgeon qui est venimeuse, des bois de cerf aussi, et une aile.
Et ils seront dans vos rues. Enfin, pas vraiment.
Il s'agit ensuite de faire avec ces chimères plus abouties de très grands collages qui vont apparaître dans le Blône, dans le quartier du Blône tout le mois de juin. Et puis les chimères originales qui ont été créées par les habitants seront exposées aussi fin juin à l'écomusée.
Marion Poupineau, avec son collègue Emmanuel, sont les créatrices de l'association Sensible.
Donc Sauvage, c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois. Et donc l'idée, c'est de créer des chimères avec les habitants, dont des personnes aussi en situation de handicap. On travaille avec deux associations qui sont l'Envol et la Thébaudet. Donc on va commencer à voir apparaître un peu des bestioles partout début juin, des empreintes de pas, puis les bestioles dans le métro, les panneaux sur le long du chemin. Donc on invitera les participants à venir faire les empreintes avec nous, à venir faire les collages avec nous.
Voilà, j'ai noté ça.
Si, la la. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe.
La radio sauvage.